Ça fait quand même bizarre de parler devant un si petit nombre de personnes et surtout avec autant d'enfants. Et je ne suis pas très doué pour parler aux enfants. Désolé. On verra. En fait, à quoi j'ai réfléchi? Vous savez que depuis quelque temps, j'envoie par email des réflexions sur le royaume de Dieu. On dialogue avec Jean assez régulièrement. Et je trouve important, intéressant. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu, parler du royaume de Dieu comme ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On regarde des tas de petits aspects, on réfléchit, mais quel est l'essentiel? Et il y a un verset que j'aime beaucoup, je trouve qu'il reflète, qui résume tout ça. C'est dans Colossiens, au chapitre 3, le verset 17, qui dit « Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, que ce soit en parole, que ce soit en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. » Ça veut dire quoi? Faire les choses au nom du Seigneur Jésus. Si je fais les choses au nom du président de la Confédération, ça veut dire que je dis les choses sous l'autorité du président de la conversation. Je fais des choses parce qu'il me les a demandées. Je fais des choses parce que ça fait partie de sa politique. Et faire des choses au nom du Seigneur Jésus, c'est faire les choses essentiellement en dépendant du Seigneur Jésus, en disant, en faisant pour lui, avec lui, selon ce que lui pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reconnais son autorité. Et la question que je me suis posée, est qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas croyant, un incrédule, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, est-ce qu'il peut faire des choses au nom de Jésus? Ce n'est pas très logique, dire « je ne connais pas Jésus et je fais des choses en son nom ». Est-ce que les gens qui ne connaissent pas Jésus peuvent faire des bonnes choses? Oui. Ça veut dire qu'il y a une différence entre faire des bonnes choses, faire ce qui est juste, faire ce qui est droit, faire ce qui est gentil, faire ce qui est positif, et puis faire des choses au nom de Jésus. On n'est pas appelé seulement à faire des choses bonnes, à faire des choses gentilles, à être correct comme tout le monde, mais il y a une différence. On est appelé comme chrétien à faire les choses au nom de Jésus. Vous voyez? Des fois, on a l'impression que faire les choses au nom de Jésus, c'est simplement faire bien. Non, c'est autre chose. Faire des... au nom de Jésus. Une autre réflexion qu'on peut avoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus. Ça veut dire que je fais au nom de Jésus, pas seulement les choses où il y a Jésus, pas seulement je ne lis pas ma Bible ou je ne parle pas, je ne prêche pas simplement au nom de Jésus. Oui, maintenant je vous parle, j'ai le sentiment et j'ai le désir et je désire parler au nom du Seigneur Jésus. Vous parlez de la part du Seigneur Jésus. Mais quand après, on ne peut plus maintenant avec le Covid, mais quand normalement après on discute en prenant un apéritif, est-ce que je dis ma conversation avec les uns et les autres, elle est au nom du Seigneur Jésus? Si on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus, même nos bavardages sont censés, doivent être finalement au nom du Seigneur Jésus. Quand je lis ma Bible, je suis conscient que Jésus me parle. Mais quand je lis un roman, c'est quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'en lisant Le Seigneur des Anneaux, je le fais au nom du Seigneur Jésus, avec le fait que c'est sous l'autorité de Jésus? Ce verset, il dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Donc, lire ce roman, il y a un côté où Jésus doit être présent. Ce n'est pas que ce soit bien ou que ce soit mal, mais comment faire pour que Jésus soit présent là-dedans? On peut multiplier les exemples, mais c'est vraiment important de se rendre compte que toute notre vie, dans les choses qui sont liées à l'Église, aussi liées à la foi, mais toutes les choses ordinaires, elles sont aussi une relation avec Jésus. Je suis retombé dessus l'autre jour, un pasteur du 19e siècle qui s'appelle Abraham Kuyper, qui était un homme extrêmement intelligent. Il était premier ministre des Pays-Bas au début du 20e siècle. Il a dit une phrase que j'aime beaucoup. « Il n'y a pas un centimètre carré dans tout le domaine de notre existence, pas un centimètre carré dans tout le domaine de notre existence, dans lequel, qui est souverain sur tout, ne proclame pas « ça m'appartient ». toute chose. Rien n'appartient pas à Jésus. Il a autorité sur tout, toute chose. Alors, sachant ça, dans toute ma vie, moi j'ai essayé de faire les choses au nom du Seigneur Jésus. J'ai essayé de partir en vacances en réfléchissant, mais qu'est-ce que Jésus veut ? J'essaye de lire, par exemple, Seigneur des Anneaux, en étant conscient que je le lis et puis que Jésus est là. Mais franchement, j'essaye de le faire. J'essaye depuis 50 ans, mais ça rate souvent. On a beaucoup de peine à faire toutes les choses au nom du Seigneur Jésus. On les fait naturellement, on les fait comme elles viennent. Et c'est difficile, c'est pas si facile si on le veut, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. On se méfie. Est-ce que le Seigneur Jésus aime le Seigneur des Anneaux ? Voyez, j'ai envie de lire le Seigneur des Anneaux. Il y a vite ce genre de tiraillement. On a un esprit d'indépendance. On a toujours envie de faire ce qu'on veut, ce qui nous intéresse. Alors, dire « je veux faire au nom du Seigneur Jésus », ce n'est pas si facile. Puis souvent, on se pose cette question, puis on est bien incapable de répondre. Qu'est-ce qu'il veut le Seigneur Jésus ? On a nos idées à nous. Est-ce que ça vient de Jésus ? Est-ce que c'est mes idées ? Est-ce que la Bible peut nous aider en partie ? Mais quand même, c'est souvent mystérieux. Comment faire ? Ben, je vous dis, j'ai fait pendant des années essayer de le faire, et ça m'avait parfois découragé. Je me dis, mais j'y arrive pas. Ça veut dire quoi vraiment ? Mais je me suis rendu compte, il y a ce genre de choses, il ne faut pas se forcer. Ce genre de choses, alors j'exagère un peu, mais si on essaye de le faire, si on se fixe dessus, on n'y arrive tout simplement pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on attaque de front, c'est quelque chose qui se construit à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, ce verset que je vous ai cité qui dit « Tout ce que vous faites en parole, en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus en remerciant par lui Dieu le Père », c'est un verset qui est dans un paragraphe, dans tout un bout de la Bible, qui dit d'autres choses, qui montre comment en fait vivre de cette manière-là, ça se construit. Comment vivre en dépendant de Jésus, en étant sous son autorité, c'est quelque chose qui se reçoit, qui vient et qui grandit. Le verset, il commence, tout ce paragraphe, il commence de cette manière-là. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné l'être humain que vous étiez auparavant avec ses habitudes. » Écoutez ça. « Vous avez revêtu un être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. » Vous avez revêtu l'être nouveau. Quand on connaît Jésus, quand on s'est tourné vers lui, on reçoit une nature nouvelle, quelque chose de nouveau en nous. On reçoit le Saint-Esprit. On ne s'en rend des fois peut-être pas tellement compte, mais si on s'est vraiment tourné vers Dieu, ben le Saint-Esprit habite en nous et il travaille. Il est dit, Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement son image. Il travaille continuellement, il agit. Travailler, comment dire ça, vivre tout au nom de Jésus, c'est totalement impossible à un être humain normal. On l'a dit tout à l'heure, c'est impossible à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Puis même nous, vivre comme ça, c'est possible uniquement parce qu'on est né de nouveau, parce qu'il y a ce Saint-Esprit. Sans cela, c'est impossible. Mais on a ce Saint-Esprit et Dieu travaille. On peut être sûr d'aller jusqu'au bout. On peut être sûr que finalement, d'une manière ou d'une autre, quand même si on ne s'en rend pas compte, on vit bien des choses au nom de Jésus. Ça dépend de Dieu. Heureusement, ça ne dépend pas de nous. Il s'occupe de toi, il s'occupe de toi, il s'occupe de toi, et il travaille pour que d'une manière ou d'une autre, tu apprennes à connaître Jésus et à lui ressembler. Il nous a, le verset il dit, Dieu vous a choisi, il vous a choisi, vous lui appartenez, parce qu'il vous a racheté, parce qu'il a mis son esprit en vous, et vous lui appartenez, et il vous aime. On peut être tranquille, il nous aime. Donc c'est Dieu qui a fait quelque chose pour nous. Mais nous, on a aussi quelque chose à faire. Quoi ? Je vous avais dit, vous avez revêtu, vous avez été habillé de cet être nouveau. Et la suite du verset, si tu peux le projeter ici, s'il te plaît. Non ? Voilà. Ouf. Je vais le lire de toute manière. Je l'ai fait écrire parce que c'est quand même un peu long. Écoutez bien, Dieu vous a choisi, vous lui appartenez, il vous aime. C'est pourquoi, alors, revêtez-vous. Vous voyez, c'est plus de, comme c'était dit avant, vous avez été habillé, vous avez été revêtu. Il dit, maintenant c'est un ordre, revêtez-vous. Revêtez-vous de quoi? D'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, et ça arrive souvent quand même, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Long passage, simple, revêtez-vous. Il y a quelque chose à faire, on a appelé, on n'est pas simplement né de nouveau, on n'a pas simplement cet esprit juste là, c'est pour agir, c'est pour faire, c'est pour vivre. Dieu est vivant, mais il veut qu'on réponde, si vous voulez. Et c'est possible de répondre parce qu'il y a ce Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Première chose, de quoi on se revêtir? Quelle est la première chose qu'on doit mettre, qui est vraiment importante? C'est revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Pourquoi cette liste-là? On aurait pu dire autre chose. Revêtez-vous de justice, revêtez-vous de vérité, revêtez-vous de sagesse. Non, il insiste affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Pourquoi? Mais parce que si on est bon, bienveillant, humble, doux et patient, ben c'est très facile d'avoir des bonnes relations avec les autres. C'est les caractères qui permettent des relations agréables, fructueuses, sans conflit avec les autres. Et c'est très important. Puis Dieu, il continue ensuite, parce qu'il sait que c'est difficile. Supportez-vous les uns les autres. Toi, tu dois supporter ton frère. Tu dois supporter ton papa. Toi, tu dois supporter ta maman. Ou ta belle-maman. Parce qu'on est imparfait. Elle doit te supporter, ta maman aussi. Oui. Supportez-vous. C'est important. Et ensuite, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. Je pense que chacun de nous a des fois des raisons de se plaindre des autres. Eh bien, pardonnez-vous, comme j'ai réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Pour construire cette relation avec Dieu, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle soit efficace, pour qu'on puisse vivre au nom de Jésus, eh bien, une nécessité, c'est qu'entre chrétiens, on soit parfaitement unis. On ait des liens d'amour, on soit ensemble. C'est une priorité. Et c'est assez frappant quand on lit le Nouveau Testament de voir à quel point, passage après passage, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, insiste sur cette idée d'unité, d'être ensemble. On est une famille. Suzy a parlé d'une ou deux images de l'Église. Il y a une image qui est très bonne. On est une famille. On est ensemble. On est des amis. Un but prioritaire, indispensable, c'est qu'on soit comme ça. Il y a une nécessité de cela. Il y a une nécessité d'être ensemble dans tous les domaines. Pas seulement juste ensemble à l'Église, mais toujours. Et vivre l'Église, vivre ses relations, être unis, s'aimer, se pardonner, avoir ces caractères-là, ça nous permet, ça nous construit, ce qui va faire finalement qu'on va pouvoir, sans trop s'en rendre compte, vivre au nom du Seigneur Jésus. C'est un résultat, en tout cas en partie, mais une partie importante, des relations qu'on a entre croyants. C'est pour ça qu'elles sont tellement importantes. Et le verset se termine en disant que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. C'est vraiment important d'avoir des relations de famille, d'être sympa les uns avec les autres, de se pardonner, d'être ça. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas seulement des relations harmonieuses avec. Elles ont un but. Elles ont un but qu'on s'encourage mutuellement. Elles ont un but qu'on se connecte à Jésus, qu'on puisse vivre justement au nom de Jésus. C'est les uns les autres que ça se passe. On n'est pas simplement pour être sympa, on est aussi pour s'encourager dans la foi. On est pour s'instruire, on est pour chanter ensemble. On est pour vivre une des choses qu'on vit maintenant, par exemple. Ça fait partie. Mais voyez, pas seulement avoir des relations sympas, parce que des relations sympas, on peut les avoir avec toutes sortes de non-chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qui est typique du nom de Jésus. Tandis que des relations sympas, mais où on peut partager la foi, où on peut s'encourager, ça, c'est au nom de Jésus. Mais voyez, ce que ça implique aussi, c'est que venir simplement au culte, simplement partager autour de la Bible, simplement prier ensemble, ben, ce n'est pas suffisant. Ça n'a de valeur que si c'est lié à des relations humaines correctes, du pardon, une famille. On ne peut pas séparer les deux choses. On ne peut pas vivre une vie de foi, d'enseignement biblique, de connaissance, de prière qui est vraiment vivante si ce n'est pas lié à des relations entre frères et sœurs dans l'Église. Ça va vraiment ensemble. C'est une des choses qui a rendu ce confinement un peu difficile. On a pu, et beaucoup se sont réjouis, de pouvoir justement lire la Bible, réfléchir, penser au royaume de Dieu. C'est très bien, mais il manque une partie essentielle, c'est de se retrouver, c'est vivre d'autres choses ensemble. Les deux choses doivent être vécues ensemble. C'est impossible de vivre, de grandir dans la foi. C'est impossible d'avoir une vie réelle, par exemple, en suivant simplement des enseignements sur Internet. Très sympa, très utile souvent, mais il manque la partie essentielle de relation. Voyez ? Et c'est là-dessus que j'avais envie d'insister ce matin. C'est que ces deux choses vont ensemble. Tout ce que vous faites, en parole et en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Eh bien, ce sera possible et ça se vivra de façon plus ou moins consciente en relation avec cet encouragement mutuel à vivre la foi, mais complètement, qu'on aura les uns avec les autres. On a besoin les uns des autres. Seul, ça ne marche pas. C'est dans ce cadre qu'on peut vraiment avoir besoin les uns des autres. C'est dans ce cadre qu'on peut vraiment être unis, pas en théorie, pas avec des grands mots, mais dans la réalité de la vie. Donc mes amis, apprenons, travaillons pour avoir des bonnes relations, mais travaillons pour partager ensemble sur la foi, pour s'encourager mutuellement, pour s'aider les uns les autres. On a besoin les uns des autres, des grands comme des petits. Ce n'est pas tout le monde de la même manière, mais on a vraiment besoin. C'est le seul cadre pour vraiment pouvoir vivre à l'honneur de Jésus. Une manière d'être ensemble. Je vous dis, famille, sympa, avoir des relations, lire la Bible, prier, chanter, c'est une chose. Il y a une chose que Jésus nous a donnée, c'est la Sainte Cène. Et pendant tous ces mois, on n'a pas pu prendre la Sainte Cène. Parce qu'on n'était pas ensemble d'abord, puis ensuite ici, parce qu'il y avait des règles sanitaires qui l'interdisaient. Maintenant, on a le droit de prendre la Sainte Cène. Et c'est une chose qui me réjouit profondément. Parce que ça fait partie de c'est être ensemble. Et j'aimerais juste vous lire un verset. C'était où ? J'ai normalement mis une marque. Parce que, voilà. Dans 1 Corinthiens 10... Pensez à la coupe, au verre du repas du Seigneur pour laquelle nous disons merci à Dieu. Lorsque nous buvons, ne nous met-elle pas en relation, en communion avec le sang du Christ? Et ce pain que nous partageons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ? Il y a un seul pain, et bien que nous soyons nombreux, en fait, dans le monde, très nombreux ici, pas très nombreux, mais bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps. Nous avons part à un seul et même pain. Quand on prend la scène, on est en relation les uns avec les autres. C'est fait pour nous mettre en relation devant Dieu, pour nous souvenir de lui, mais c'est un signe que Dieu nous, un repas que Dieu nous a donné pour dire, mais vous êtes ensemble. Et on va pouvoir le faire maintenant, ensemble. Alors, instruction, comment le faire pour être sanitairement correct? Donc, on a préparé ça dans toutes les règles de l'art. Et il y a deux choses. Il y a un plateau avec le pain et un plateau avec les petits godets. Les morceaux de pain sont bien séparés, comme ça on peut les prendre sans toucher tout le plateau et sans toucher tout le reste. Et ils ont été coupés avec des mains désinfectées à 100%. Donc, ce que je vous propose. Et avec un masque, oui. Et je vous propose de venir famille par famille pour ne pas se mélanger, pour venir prendre le pain et le godet, repartir, puis ensuite une autre famille, comme ça on se croisera pas trop et on pourra prendre cette scène en respectant les règles que nous demandent les autorités. Ah, déjà maintenant? Ah oui. Alors pour ceux qui sont en ligne et qui ne vont pas apprendre la scène, on a préparé, ou apprendre si vous voulez, mais on va quand même vous donner les questions qu'il y aura dans le petit groupe qui terminera ce culte. Si tu peux projeter les questions, c'est le dernier dia du PowerPoint. Voilà, voici les questions qui sont pour le petit groupe. Alors au moins vous n'allez peut-être pas apprendre la scène, mais bon, qu'est-ce qui est important pour moi dans la Sainte Seine? En général et aujourd'hui, vous pouvez quand même partager, même si vous ne l'avez pas lu, pas prise. Et puis la deuxième question, c'est ce verset-là. Comment est-ce que je le vis personnellement? Alors, nous, on va maintenant, je vais prier, on va prendre la Sainte Seine et puis on reviendra à ces questions pour terminer ces moments. Seigneur Jésus, moi j'aimerais te dire merci parce que j'ai vraiment conscience que je suis pas, je n'ai pas l'impression de tout faire en ton nom. Mais je sais que tu es fidèle, je sais que tu produis des choses en moi, je sais que tu m'aimes et j'aimerais pouvoir te dire merci. Merci pour ce que tu as fait, pour la croix, pour ta mort. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés et tu nous aimes ici chacun. Et on veut prendre ce pain et te dire merci pour ce que tu fais, mais aussi te dire merci parce que tu nous as mis ensemble. Merci parce que tu nous as unis. Et Seigneur, tu ne nous as pas laissés tout seuls. Et merci aussi pour cela. Et on prend ce pain, on boit ce jus de raisin avec reconnaissance après ce longue interruption. Merci parce que tu t'occupes de nous, corps, âme et esprit. Amen.